Bonjour à toutes et à tous, Punsun à toutos et à toutes. Vous êtes bien sur Radio Albigès dans votre magazine Garde à Rem la Terre. Et cette semaine, nous vous proposons un petit flashback puisque nous allons revenir le 18 avril dernier. C'était la 6e journée de la biodiversité sur le campus de Fond-Labour. Et alors, Radio Albigès était sur place, nous avions un petit plateau radio. Et à notre micro se sont enchaînés plusieurs intervenants et intervenantes qui nous ont parlé de leur travail, pour la plupart, vous en doutez, engagés en faveur de la biodiversité. Et sur Radio Albigès, nous vous proposons tout de suite de revenir sur cette 6e journée. Écoutons un petit peu tout ce qui s'est passé, toutes les choses intéressantes qui se sont racontées. Garde à Rem la Terre, c'est parti. Vous êtes toujours sur Radio Albigès 95.4 et 104.2. On enregistre cette émission depuis le campus de Fond-Labour pour la 6e édition de la journée de la biodiversité. Et pour continuer, on est en compagnie de Bruno Eck. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et donc vous avez présenté une conférence ce matin, une conférence sur les abeilles et les guêpes solitaires, donc les meilleures pollinisatrices dans le monde. J'ai mes petits antitustes, hein, c'est pas tout ça dans la tête. Et déjà pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous avez présenté ce matin, si c'est possible de résumer un petit peu, et donc pour quel organisme, association vous travaillez ?
Donc moi je suis président d'une association qu'on a créée en 2007 qui s'appelle les Fous du Bois. Nous faisons des animations enfants autour des hôtels insectes, des constructions de nichoirs. On va dans les écoles, on reçoit les écoles. On a un site, donc une réserve de 3 hectares qu'on expérimente depuis 25 ans. Et donc cette mise en avant de cette réserve nous a prouvé que l'homme peut vraiment agir en faveur de la biodiversité puisqu'on a une augmentation exponentielle des essences, des espèces suite à la plantation d'essences d'arbres de pays. Et donc on travaille avec Arbres et Paysages d'Autan, comme vous avez chez vous Arbres et Paysages du Tarn, donc qui nous fournit des arbres de pays qui sont complètement adaptés à nos insectes qui sont de véritables dinosaures. Donc l'exotique n'est pas leur tasse de thé. Et donc du coup on incite les gens un peu à faire de la plantation de ces arbres de haies. Et donc on vient d'acheter 15 hectares sur lesquels on tente de faire une réserve de biodiversité beaucoup plus grande. On va planter 15 000 arbres, donc on reçoit les écoles, on a fait les aménagements pour ça, et donc maintenant on est sur le développement de cette réserve qu'on vient juste d'acquérir l'an dernier, et maintenant créer un cahier des charges pour pouvoir en créer d'autres. Le principe c'est pas d'en faire qu'une, hein, parce que voilà, notre biodiversité souffre, hein, on oublie énormément de chiffres aujourd'hui qui doivent nous rappeler à l'ordre, hein, sur 127 plantes les plus cultivées dans le monde, 89 dépendent des pollinisateurs. Donc notre nourriture, c'est 87% dépendant des pollinisateurs. On ne pourra pas s'en passer. C'est sans doute aujourd'hui l'insecte, et sans doute l'animal le plus important au monde, vu la densité de population qu'on a sur la planète. Et donc c'est quand même pas un animal qu'on approche facilement, l'insecte. On est plutôt phobique, on est plutôt voilà, rétractaire à son approche. Et donc en réalité, on se rend compte que si on veut s'en occuper et s'y intéresser, un peu comme tout ce qu'on ne connaît pas, on ne l'aime pas. Et tout ce qu'on commence à connaître, on commence à l'aimer. Et donc c'est pour ça qu'on est là, nous, pour sensibiliser les écoles, les adultes, enfin je dirais toutes les catégories de population de la défense de l'insecte et de faire ce qu'il faut pour nos générations futures et encore de quoi se nourrir.
Et parce que là, d'après ce que vous dites, ça me fait penser à quelque chose dont on parle quand même beaucoup en ce moment, c'est la disparition de l'abeille, les colonies qui disparaissent. On voit beaucoup de vidéos d'apiculteurs qui se plaignent de colonies qui meurent. C'est que peut-être vous pourrez nous éclairer un petit peu. Est-ce qu'on est vraiment à un état catastrophique de la situation à ce propos-là?
On a perdu 40% des insectes volants en 27 ans. Donc c'est un chiffre qui montre qu'on va vers une extinction, la sixième extinction, si on continue à ce rythme-là et à cette manière de consommer et de détruire, il est clair qu'on y va droit. Alors nous, moi avec mes 57 ans, je pouvais peut-être imaginer passer à côté, mais même à l'âge que j'ai, il est possible que je vois la fin, dans le sens que si on fait rien, ça peut aller très très vite, quoi. Donc on est sur une politique d'information de plus en plus poussée sur ce monde-là, sur les abeilles. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'on a perdu, on a 1000 espèces d'abeilles solitaires en France et 4000 espèces de guêpes solitaires. Et ces insectes, on est en train de les perdre au même titre que les abeilles de ruche, mais pour différentes raisons. C'est-à-dire qu'on incrimine évidemment les pesticides dans cette cause, qui est une cause essentielle, mais qui n'est pas la première cause. La première cause de disparition des abeilles solitaires, c'est leur habitat.
Et donc la destruction de leur habitat.
Voilà. On oublie que n'importe quel individu sur Terre, à partir du moment où il a les deux choses qui l'incombent pour survivre, c'est-à-dire le gîte et le couvert, il reste sur place. Si on lui enlève un de ces deux éléments, il devient un migrant. Que ce soit un animal, un humain ou un insecte, c'est la même chose. On est obligé de se déplacer pour aller vivre quelque part d'autre, pour aller se nourrir quelque part d'autre. Et donc aujourd'hui, on a ce gros problème, c'est qu'on perd nos abeilles parce que simplement, les tas de bois qui étaient derrière chaque maison ont disparu. On ne se chauffe plus au bois. Et ensuite, les murs en terre ont été crépis à partir des années 50. Monsieur Portland nous a vraiment pas rendu service à ce niveau-là en inventant le ciment. Et c'est vrai qu'on ne s'est pas posé de questions à l'époque parce que tout simplement, les recherches n'allaient pas en ce sens. On avait des abeilles, on avait une pollinisation qui fonctionnait bien. On avait l'impression que cette humanité ne pouvait ne jamais s'arrêter, quoi. Et c'est quand on a commencé à voir... aujourd'hui, on peut traverser la France en nettoyant son pare-brise. Il y a 20 ans, c'était pas possible. Donc ouais. on voit des changements qui s'opèrent, qui sont vraiment... le monde des insectes, aujourd'hui, c'est... on n'est pas trop dérangé par le bruit des insectes, ni par même leur... Et donc, on se rend compte de ça aujourd'hui. Et les études qui vont en ce sens nous montrent que c'est bien plus catastrophique qu'on l'imaginait, quoi.
Mmh. Et, oui. Juste une question. On parle de réserve. Et donc, le but, c'est pas de faire un zoo par-ci, par-là, où on pourrait venir regarder ce qu'était le monde ancien. Est-ce qu'on est condamné à ça, à faire des réserves, des parcs naturels où il y aurait des endroits, ou est-ce qu'on peut, se dire, on peut faire un peu machine arrière et revenir avec côtoyer les insectes un peu dans tous les domaines, dans tous les milieux, même y compris urbains?
Le principe en fait de la réserve, c'est pas de faire un zoo, c'est justement de faire un lieu où on se... excusez-moi, un lieu où on se prépare à la sortie des pesticides. Ouais. Mais pour s'y préparer, il faut déjà commencer à essayer de préserver un nombre important d'insectes qui sont soit rares, soit qui ont besoin de conditions très particulières, qui n'existent plus dans la nature, parce qu'on a supprimé les champêtres, parce qu'on a asséché les points d'eau, parce que donc ces réserves, en fait, elles seraient là uniquement pour faire, je dirais, des zones d'attente et de multiplication, jusqu'à ce que ce monde-là puisse reprendre ses droits, parce qu'on aura enfin compris que la vie est essentielle à tout le reste, au plastique, au métal, qui aujourd'hui constituent nos portables, et qui nous rempliront jamais nos assiettes, quoi. Alors que le vivant, c'est la base de tout, c'est quand même se nourrir. À partir du moment où on impacte ça, on se rend bien compte que dans les pays où la nourriture manque, c'est une catastrophe, tout le monde s'en va. Le pays a beau être le plus beau, le plus magnifique, à partir du moment où les gens peuvent plus se nourrir, c'est la catastrophe. Donc on sait qu'avec 10 milliards d'habitants en 2050, on va devoir se préparer à une augmentation de cette démographie, et on va être obligé de se préparer à avoir de la nourriture pas forcément plus saine qu'avant, mais peut-être en moindre quantité, en moindre qualité. Alors que, on a aujourd'hui des études qui nous prouvent... je vous donne un exemple. Imaginons une serre dans laquelle on va y planter des milliers de fraisiers avec des espèces différentes, mais que de fraises. Et on va laisser entrer que des abeilles de ruche. On va se retrouver avec 79% des fruits mal formés. Si on ouvre les bâches, on laisse entrer les abeilles solitaires, qui sont, je le rappelle, au nombre de 1000, on va avoir plus que 12% des fruits mal formés. Donc on sait aujourd'hui que la pollinisation de qualité et de quantité nécessite en fait la biodiversité. Une abeille de ruche, c'est une seule espèce. Et donc ça ne suffit pas aujourd'hui à nourrir l'homme. Elle représente, ces abeilles ruches, que 30% de notre pollinisation. Et elle est systématiquement complétée par les abeilles de ruche et les guêpes solitaires. Il y a 4000 guêpes solitaires également, dont on parle toujours, le mot guêpe fait dresser les poils, c'est toujours la piqûre qu'on voit, alors qu'en réalité, un nid de guêpe qu'on aura sous notre toit va avoir besoin de 4500 larves par semaine pour nourrir cette colonie. Ces larves sont les prédateurs de nos légumes. Donc ces guêpes ont un rôle. Donc non seulement elles vont polliniser, parce que si on discute aujourd'hui de la différence qu'il y a entre les abeilles et les guêpes, les abeilles se nourrissent de pollen et de nectar et nourrissent leurs petits de la même manière. Les guêpes se nourrissent de pollen et de nectar également, donc pollinisent, mais nourrissent leurs petits avec des proies. Donc elles ont peut-être même un rôle plus important quand on regarde bien, puisqu'elles sont là à la fois pour réguler les populations de prédateurs de nos légumes et à la fois de polliniser. Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on reconsidère notre vision du monde des guêpes. Et j'ai même envie de vous dire, même le frelon d'Asie pollinise, même s'il fait d'énormes dégâts sur les ruches. Aujourd'hui, on sait que sa population est en baisse parce que tout ce petit monde est issu d'une seule fondatrice. Et que du coup, les parents, des parents, des parents, des parents, tout ça, ça s'appauvrit génétiquement. Et on a maintenant 40 à 50% de mâles en trop. Donc on voit que la nature reprend ses droits aussi et que cette population est en train de baisser. Donc on sait aujourd'hui tout ça. Malheureusement, le problème, c'est qu'il n'y a pas de lobby derrière, ni comme le miel, ni pour les produits chimiques. Donc on n'a pas beaucoup de gens aujourd'hui qui sont au bout des micros, devant les grandes chaînes de télé pour en parler. Et c'est ça qui est un peu dommage, c'est que c'est une chose essentielle mais que peu de personnes aujourd'hui osent aborder parce qu'on touche des points stratégiques de notre économie.
Mais c'est bien parce que du coup, c'est aussi pour ça que les petits médias sont là pour donner ce genre de discours et le rendre
public aussi. Merci à vous.
Mais du coup, vous me faites presque regretter d'avoir enlevé mes nids de guêpes au jardin parce que maintenant, je me dis, zut, du coup, mes légumes ils vont se faire bouffer par les larves
voilà,
que n'auront pas mangé les guêpes.
Si jamais vous avez plus de pyrite du chou qui vous mange vos choux cette année, ne cherchez pas, vous êtes totalement responsable.
D'accord, très bien. Mais j'en prends la totale responsabilité alors. Mais du coup, de ce que vous dites, ça me fait aussi penser à quelque chose. C'est vrai que quand on entend un peu ces discours dominants par rapport à qui sont les responsables de cette chute de la biodiversité, c'est vrai qu'on a tendance à pointer du doigt des coupables désignés un peu, et du coup ça fait un peu réfléchir aussi au rôle de nous, de chacun,
ouais.
De qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire aussi tout simplement à notre petit niveau pour essayer de sauver ça, et par exemple les hôtels insectes que vous proposez à la fabrication, c'est une de ces solutions-là.
Voilà, donc l'hôtel insecte en fait il vient, alors on va, donc je resitue les chiffres, 1000 abeilles solitaires, 4000 espèces de guêpes solitaires, on n'a que un quart de ces insectes au total qui vont être intéressés pour s'installer dans les hôtels insectes. Les trois autres quarts vont être dans le sol, dans le sable, dans la terre. Et donc, malheureusement, on les impacte aussi sans le savoir quand, dans nos jardins, plutôt que de marcher dans la terre, on va y mettre des dalles. Alors qu'en fait, ces abeilles et ces guêpes nichent dans la terre tassée. Elles nichent dans les passages de troupeaux, elles nichent dans les passages humains, les passages de roues. Et on est malheureusement, on n'aime pas la boue, on n'aime pas la terre. C'est le propre de l'homme, c'est qu'on a aseptisé nos maisons, donc il n'est pas question de les salir. Résultat des courses, on endommage un petit peu notre vie, sans le savoir, la vie qui est autour de nous, simplement en rendant nos jardins trop propres. Donc si on doit nous donner quelques conseils, laisser un peu de bois pourrir au fond du jardin. Un arbre mort est 40 fois plus vivant qu'un arbre vivant. Donc il faut reconsidérer la chose comme ça. Laisser des tas de végétaux parce que tout simplement on aura des carabes à l'intérieur qui vont nous protéger des limaces et des escargots. On va mettre un hôtel insecte orienté est parce que ça c'est l'idéal. Et on essaiera de le faire le plus durable possible parce qu'une fois qu'il prendra l'humidité, ce ne sera plus un hôtel insecte mais un piège insecte. C'est malheureusement ce qu'on achète dans les magasins de grande distribution qui vantent des hôtels insectes qui n'en sont pas, qui sont plutôt des pièges insectes parce qu'ils n'ont pas de toiture qui résiste à l'humidité, parce qu'ils n'ont pas de fond qui résiste au côté ouest de la pluie, parce que l'intérieur est mal fait avec des bois percés qui sont en épicéa au lieu d'être en bois dur. Voilà, tout ça, il faut voir qu'aujourd'hui, on a environ une trentaine d'années de recul avec les Allemands qui ont beaucoup avancé de ce côté-là. Et d'ailleurs, on va les voir régulièrement pour ça. Et on a aujourd'hui des entomologistes, on a l'OPI ici sur place qui sont des gens voilà, qui peuvent donner des conseils tout à fait adaptés pour ne pas faire un hôtel insecte qui soit autre chose qu'un hôtel insecte.
Ok.
Je rappelle qu'on est avec Bruno Heck de l'association Les Fous du Bois en Haute-Garonne. On va pas tarder à terminer cette petite interview parce qu'on a des gens qui arrivent sur
les prochains invités.
Le plateau. Votre association Les Fous du Bois, qu'est-ce qu'on peut, comment on peut vous soutenir ou comment on peut vous faire appel à vous si on a des choses, des stages à organiser, des choses comme ça, c'est possible?
Alors donc nous, c'est pas compliqué, hein, legrandcèdre@gmail.com. Donc après, vous allez sur le site Les Fous du Bois et vous trouverez toutes les informations pour nous contacter. Donc nous allons dans les écoles, que ce soit de la maternelle jusqu'à la formation du personnel, des ALAE, des CLAE, voire même de certains scientifiques, comme tel qu'on l'a fait pour le Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse. Et après, on reçoit les écoles au même titre pour voyage scolaire. Sur notre réserve de 13 hectares qu'on a acheté, on va planter 15 000 arbres, déjà les aménagements sont faits pour recevoir les écoles. Et cette année, on a déjà plus de 500 arbres sur les 800 qui ont été plantés par des enfants. Donc déjà, ça, c'est une chose pour imaginer que les enfants puissent retrouver un peu de contact avec la terre. Ils peuvent venir nous rejoindre pour faire des plantations, d'où qu'ils viennent. Là, on est actuellement en train de négocier avec le département l'obtention de subventions pour payer les bus. Parce qu'on s'est rendu compte que c'est le facteur limitant dans pas mal d'écoles. Et je veux dire, si on arrivait à faire sauter ce frein, on aurait toutes les écoles qui auraient le droit de venir planter. Et c'est absolument génial, quoi. Mmh. Voilà.
On peut, en tant qu'adulte, on peut adhérer à l'association.
Tout à fait,
aussi,
vous pouvez adhérer à l'association. C'est 20 euros l'adhésion. Donc ça, vous pouvez trouver le bulletin d'adhésion sur le site. Vous pouvez également nous contacter pour qu'on l'envoie par mail si vous n'arrivez pas à le télécharger. Et après, vous pouvez nous accompagner en donnant des actifs et en participant à nos activités. Construction de préparation. Donc on a un atelier pour les préparations de tout ce qui est animation pour les écoles. On entretient les chemins de randonnée sur tout notre secteur. Donc on fait des balades. Et justement, on profite d'apprendre aux gens énormément de choses sur les arbres de pays. Et voilà, si on vous dit par exemple qu'un saule marceau abrite 300 espèces d'insectes, c'est surprenant. Et à la fois, un sureau, l'arbre un des plus courants qu'on a ici, abrite 80 espèces d'oiseaux. Donc quand on comprend ça, on comprend que dans sa haie, au lieu de mettre des tuyas ou des cyprès de les Landes, il serait peut-être temps de mettre quelques arbres de pays pour intéresser nos insectes et après nos oiseaux, du coup, par là même, puisqu'ils s'en nourrissent.
Message aux paysagistes. Voilà. C'est passé.
Bruno Hecq, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.
Les seins se gonflent et s'abandonnent à la caresse du printemps. Et dans la ruche tourbillonne, prêtes à prendre leur élan. Les abeilles se posant par cent et par mille sur les fleurs qui s'ouvrent à peine. Elles butinent leur pistil pour en extraire le pollen. Bzz, 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 bzz. Les abeilles, ces gentilles petites bestioles, fabriquent d'abord de la cire. Elles y font des alvéoles, doux petits nids pour bien dormir. Les abeilles. Mais gare à celui qui s'égare au milieu d'elles par hasard. Il aura beau s'enfuir dardard, il sera piqué par le dard. De l'abeille. Quand vient le grand jour de la ponte, la reine doit faire de son cordon. Et dans l'azur elle monte, monte, poursuivie par tous les bourdons. Ça va être sa fête. C'est celui qui la rattrapera qui sera le bourdon papa. Mais tout de suite après il mourra pour avoir donné tout ce qu'il a. Vache d'abeille. Si tous les hommes ici-bas devaient mourir à ce moment-là, j'en connais plus d'un, croyez-moi, qui y regarderait à deux fois. À d'autres. Heureusement que c'est pas demain la veille que les femmes deviendront abeilles. Dans ce cas, je dors sur mes deux oreilles et je dis miel aux petites abeilles. Pensez bien, quand je suis avec ma fiancée, je me fiche pas mal des abeilles. Les abeilles. Je me demande un peu. Enfin. Allez, à la ruche. À la ruche.
On est toujours sur cette sixième journée de la biodiversité à Albi, sur le campus Follabour, où on en reçoit à l'instant David Campo et Emmanuel Campagne. Bonjour, messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, David Campo et Emmanuel Campagne, vous venez sur le campus aujourd'hui pour parler de la graine à la parcelle, retour d'expérience pour l'implantation des haies et des prairies naturelles avec arbres et paysages tarnés. C'est bien ça. Une conférence donc qui sera donnée tout à l'heure et qu'on devrait enregistrer si tout va bien. Mais est-ce qu'on peut d'abord un petit peu, est-ce que vous pouvez vous présenter? Qui veut commencer par se présenter?
Alors moi je suis Emmanuel Campagne, je travaille à la Chambre d'agriculture du Tarn et je suis conseiller spécialisé sur la biodiversité.
Et moi David Campo de l'association Arbres et Paysages Tarnés, qui est un opérateur technique pour la réimplantation d'arbres et de haies sur le territoire départemental.
Alors le retour d'expérience dont vous allez parler dans la conférence, quel est-il? Quelle expérience, depuis quand c'est en cours? Et c'est David.
En fait, on va parler de deux expériences. Emmanuel parlera de la partie prairie naturelle et au niveau d'arbres et paysages tarnés. On mutualise au niveau régional des campagnes de récolte de graines de végétaux locaux. Ça se fait sous l'égide d'une marque nationale qui s'appelle Végétal Local. Donc, et au niveau régional, cette déclinaison de récolte est sous l'égide de la FAC Occitanie, où on mutualise les récoltes de graines pour les confier à des pépiniéristes qui ensuite font germer les graines, les mettent en culture et nous les redistribuent pour qu'on puisse les utiliser dans nos campagnes de plantation d'arbres et de haies. Donc l'objectif, c'est d'avoir une traçabilité complète de la parcelle où on récolte au planteur chez qui on va mettre les arbustes qu'on a récoltés.
Et ça, tous les acteurs sont réunis autour de la table de suite pour
les... Ben, disons que les campagnes de récolte de notre côté se font pendant la saison de végétation, de la mi-avril à la fin du mois de novembre. Mmh. Tous les opérateurs régionaux dans chaque département mènent les campagnes récoltes et après on mutualise les graines pour améliorer le pool génétique des végétaux récoltés et les confier à divers pépiniéristes.
Arbres et Paysages Tarnay, on rappelle le statut de... Qu'est-ce que c'est? C'est une association?
Arbres et Paysages Tarnay, c'est une association qui a plus d'une vingtaine d'années et qui mène chaque année des campagnes de réintroduction de haies et d'arbres en milieu agricole. Mmh. Donc l'idée, ben, c'est de faire bénéficier les agriculteurs de tout l'apport de l'arbre champêtre sur leur exploitation, que ce soit en termes d'érosion, de soutien aux pollinisateurs, de soutien aux auxiliaires, de lutte contre l'érosion des sols, de lutte contre le changement climatique, enfin d'adaptation au changement climatique, ouais. De qualité de l'eau. Voilà, on mène toutes ces actions-là sur le territoire, à la fois à travers des campagnes de plantation et ensuite... un gros volet sur l'information, la sensibilisation et la communication autour du rôle et de l'intérêt de l'arbre.
Et alors ça, c'est du volontariat?
L'association est composée d'un conseil d'administration avec donc un président et un conseil. Ouais. Et on est 3 salariés au sein de l'association.
Et je veux dire, les paysans ou les agriculteurs qui voudraient faire appel à vous, c'est sur le mode du volontariat et, ou c'est la Chambre d'agriculture qui vous met en relation? Peut-être on va voir avec...
Disons qu'on répond la plupart du temps à une demande et ensuite on fait toute une animation en amont sur que ça peut être en relation avec des associations de territoire en lien avec l'environnement ou des sociétés de chasse aussi sur... sur le territoire départemental qui provoque une réunion sur laquelle on intervient pour inciter les agriculteurs et les propriétaires fonciers en milieu rural à réintroduire de l'arbre. L'idée, c'est de remettre de l'arbre aussi souvent que possible dans tous les milieux.
Alors, quel est le rôle de la Chambre d'agriculture dans tout ça, Emmanuel Campagne?
Alors là, sur l'aspect arbre et arbustes, effectivement, c'est David qui va présenter tout ça. Nous, on va présenter en fait des essais qu'on a menés depuis 2017 sur la récolte et l'implantation de semences issues de prairies naturelles, donc les belles prairies qu'on voit dans nos campagnes. Mmh. Et donc là, l'idée, c'était de voir si on pouvait transposer cette flore locale sur des prairies, sur d'autres parcelles, en fait, ce qui constitue une alternative un peu aux prairies semé classiquement avec des variétés commerciales. Mmh. Donc là, on était sur un projet, et on est toujours sur un projet avec un groupe d'éleveurs du Tarn, qui est situé sur les zones d'élevage représentatifs et qui est principalement composé d'éleveurs en agriculture biologique. Voilà. Et donc, on a fait différentes thèses à la fois de récolte, des modalités de récolte différentes, avec la moissonneuse ou... en épandant directement du foin. Et puis on a suivi un petit peu ce que ça donnait en termes d'implantation derrière et d'évolution de la prairie qu'on avait semée par ces techniques.
Est-ce que c'est un préalable de travailler en bio pour participer à ces projets ou est-ce qu'il y a des gens qui peuvent être en cours de conversion ou en agriculture raisonnée ou...
Alors il y a un noyau d'éleveurs qui est en bio aussi, c'était pour des questions de financement en fait, puisqu'on est soutenu par la région et par l'Europe sur des actions bio, mais effectivement d'autres éleveurs qui soient en conventionnel peuvent tout à fait se joindre à la démarche.
Parce qu'on rappelle donc l'avantage des haies C'est pas forcément que de, c'est de réintroduire de la biodiversité notamment, et ça peut justement accompagner une conversion ou une restructuration d'une parcelle, etc. Repenser carrément un métier, c'est ça aussi le rôle des, bah, de commencer à reparcelliser plus petite échelle des terres.
Alors effectivement sur l'aspect, là on est sur la structure. On va dire du paysage, sur l'agencement ouais. des éléments paysagers.
De garder de la prairie
on
aussi,
peut avoir une structuration de parcelles avec la haie. Mais là, nous, ce qu'on a travaillé, en fait, l'action qu'on a travaillé, c'était sur la prairie. Ça veut dire que.
Ça veut dire que des
dans les campagnes, il y a des prairies qui sont, qu'on appelle naturelles. Ça veut dire qui n'ont pas été retournées ou travaillées depuis. Depuis des dates inconnues, en fait, des temps, ouais. tout le monde les a toujours vus en prairie naturelle. Donc ça veut dire qu'on a des espèces dedans qui sont qui ont un patrimoine génétique caractéristique, qui avec une certaine diversité. On peut avoir plus de 50 espèces par prairie, et avec aussi un réel intérêt fourrager pour les éleveurs et une certaine souplesse d'exploitation. Aussi, c'est des prairies aussi qui sont plus résistantes face à des événements climatiques comme les sécheresses. Ce que les semences commerciales ont du mal à faire, en fait. Les semences commerciales, elles sont moins rustiques, elles ont moins cette capacité de résistance aux conditions pédoclimatiques locales.
Est-ce que le but de la conférence, c'est pour montrer aussi une viabilité économique derrière toutes ces pratiques à des gens qui, par exemple, on est sur Fond Labour aujourd'hui, il y a des étudiants qui peut-être se posent des questions sur la viabilité économique de pratiques plutôt novatrices pour certains. Est-ce que c'est un début aussi de montrer que c'est possible d'en vivre et de travailler autrement que ce qu'on a longtemps appris?
Alors nous, sur nos essais, effectivement, on s'inscrit dans des essais qui doivent être faits simplement dans une exploitation agricole. Ça veut dire avec du matériel agricole classique, voilà, qui n'engendre pas de surcoût. Alors effectivement, après, au niveau bilan économique, on peut même avoir un gain, parce que la semence fourragère, elle a un coût. Par contre, la semence qu'on récolte chez soi, elle n'a le coût que de sa récolte. Voilà.
Donc c'est le but de montrer quoi, là,
que ça peut effectivement faire partie intégrante d'un système d'exploitation. Après, voilà, c'est une pratique parmi d'autres.
C'est pas la panacée. Un peu.
Voilà, c'est une pratique qui permet justement éventuellement de transposer ces prairies que certains jugent intéressantes sur d'autres parcelles. Voilà.
On rappelle peut-être historiquement l'aspect biodiversité dans la chambre d'agriculture, ça date de quand qu'on a commencé à s'y intéresser et à dédier des personnes à ce travail?
Alors à la chambre d'agriculture, c'était une association préexistante qui s'appelait la DASEA, et donc qui a été intégrée où il y avait déjà ce travail sur la biodiversité et une équipe qui travaillait à temps plein sur la biodiversité. Et donc cette association a été intégrée à la Chambre d'agriculture en 2010. Et donc la Chambre a maintenu ses actions et donc le personnel aussi qui travaillait là-dessus.
Oui, parce qu'il faut, j'imagine, des permanents pour avancer, faire avancer tout ça.
Voilà, à la Chambre, on travaille sur différentes thématiques liées à la biodiversité, que ce soit Natura 2000, les zones humides, voilà, différents programmes en fait qui s'articulent un peu sur différents territoires du département et différents milieux.
Y compris forêt, on parle de forêt aussi.
Alors on a un conseiller forestier aussi à la Chambre.
Sur la question de la biodiversité?
Non. Là sur les aspects forestiers et d'exploitation forestière plutôt. Okay. Voilà.
Je reviens sur avec David Campo, Arbres et Paysages Tarnais. Pareil, alors on va parler un peu des rouages des associations. Radio Albigès, c'est une association aussi, elle a besoin de salariés, de bénévoles. On a parlé de la structure un peu de comment des salariés. Est-ce que les particuliers, les entreprises peuvent aider Arbres et Paysages, et comment? En donnant du temps, en donnant de l'argent
Non, de l'argent pas forcément. On a des partenaires institutionnels qui sont là.
Qui font le job.
Oui. Mais sur l'aspect, par exemple, végétal local et récolte de graines, on fait appel à des associations locales, des bénévoles, pour non seulement nous indiquer des endroits qui sont d'un point de vue botanique assez sympathiques et qui sont propices à la récolte de graines. Donc non seulement dans la recherche de sites, mais également dans les campagnes de récolte. C'est vrai que les campagnes de récolte telles qu'on les prévoit pour ces végétaux, ça peut être assez fastidieux. Et donc on travaille beaucoup avec des associations relais sur le territoire. Ça peut être, je pense à, notamment, on est ici au lycée Font-Labour, on a travaillé avec Flammarens, qui est un autre lycée agricole de Lavore, dans le Lauragais. Et donc chaque année, avec ces élèves, on mène des campagnes de récolte de graines sur le campus, du lycée agricole de Flammarens. Donc on peut aider l'association à travers ces opérations-là. On est preneur de personnes qui nous indiqueraient de nouvelles stations, puisque sous l'égide de la marque végétale locale, il y a un protocole qui est assez strict. Et un des aspects, c'est par exemple l'impossibilité de revenir trois fois de suite sur le même site de récolte. Donc il faut sans cesse se renouveler, il faut sans cesse retrouver des sites. Et donc nous, on connaît le territoire, mais parfois il peut y avoir des peuplements qui peuvent être signalés et qui sont... qui participent à ce pool génétique, à cette richesse pour ensuite mutualiser les opérations de récolte.
Donc on peut participer à cette veille botanique à...
Oui, il n'y a pas de problème. Ensuite, on a un gros volet sur la sensibilisation, l'information, où on fait des réunions, on fait des expositions. On a un stand ici aujourd'hui dans le cadre des Journées de la Biodiversité. Donc, on sollicite nos bénévoles et nos administrateurs pour... parce que ces manifestations sont de plus en plus fréquentes et pour nous aider à être présents quand même si on ne peut pas se décupler tout le temps.
Comment on vous contacte ?
Nous, on est basé dans les locaux de la Chambre d'agriculture. Il y a un site internet en tapant www.arbres-et-paysages-tarnay. Vous arriverez à trouver notre site et nos coordonnées à la Chambre d'agriculture, nos coordonnées téléphoniques, c'est le 05 31 81 99 59.
Et on appelle sur les heures de bureau.
Voilà, heures de bureau.
Ok, Emmanuel Campagne et David Campo, merci beaucoup. On va vous laisser vous préparer pour cette conférence et on vous remercie, on vous souhaite bon vent.
Merci à vous.
Merci à vous.
C'est la fin de ce magazine Garde Arème la Terre sur Radio Albigès. Merci à vous de l'avoir suivi avec nous. Merci à toutes les personnes qui sont intervenues au micro. Merci aux personnes qui ont organisé cette journée et qui ont permis qu'elle se déroule dans des conditions idéales. Si vous souhaitez réécouter le podcast de ces émissions, vous pouvez aller sur le www.radioalbigès.com. Merci à vous et très bonne écoute.